Cinquième partie. Au cours des 2 mois qui suivirent, les rumeurs allèrent bon train. De plus en plus souvent, les gens disaient voir Derby bouillonner de cette vitalité nouvelle, tandis qu'Azénat ne répondait presque jamais aux sollicitations de ses rares visiteurs. Edward ne passa me voir qu'une seule fois durant cette période. Il conduisait la voiture de sa femme, dûment rapatriée depuis l'endroit où il l'avait laissée dans le Maine, pour chercher des livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans l'une de ses humeurs exaltées, et ne resta que le temps d'échanger avec moi les banalités d'usage. Il n'avait manifestement rien à me dire quand il était dans cet état, et je remarquai qu'il n'avait même pas pris la peine d'utiliser le vieux code à 5 coups quand il avait sonné. Comme lors de cette soirée sur la route, je ressentis en sa présence une ineffable et profonde répugnance que je ne pouvais expliquer. Si bien que son départ précipité fut pour moi un prodigieux soulagement. À la mi-septembre, Derby quitta la ville toute une semaine. Certains membres du cercle d'étudiants décadents évoquèrent d'un air entendu une rencontre avec le chef d'un culte de sinistre renommée et qui avait établi son quartier général à New York après sa récente expulsion d'Angleterre. Pour ma part, je n'arrivais pas à m'ôter de l'esprit notre étrange voyage de retour du Maine. La transformation à laquelle j'avais assisté m'avait profondément bouleversé, et je me surprenais sans cesse à tenter de me l'expliquer, tout comme j'essayais de comprendre la terreur profonde qu'elle m'avait inspirée. Mais les rumeurs les plus troublantes concernaient des bruits de sanglots provenant de la vieille demeure de Crowninshield. On eût dit une voix de femme, et certains jeunes gens avec qui elle était en rapport crurent reconnaître celle d'Azénat. Les pleurs se faisaient rarement entendre, et bien souvent la voix se taisait brusquement, comme étranglée. On parla un temps de prévenir la police jusqu'au jour où la jeune femme réapparut en ville et bavarda gaiement avec un grand nombre de ses connaissances. Elle s'excusa de ses récentes absences et mentionna au détour d'une phrase l'effondrement nerveux et les crises d'hystérie d'une invitée de Boston qu'elle accueillait chez elle. Personne ne vit jamais cette invitée, mais la réapparition d'Azénat coupa momentanément court aux rumeurs. Toutefois, l'affaire se compliqua quand un témoin murmura qu'à 1 ou 2 reprises, c'était une voix d'homme qui l'avait entendue sangloter. Un soir, à la mi-octobre, j'entendis les 5 coups de sonnette familiers tinter à la porte d'entrée. J'ouvris moi-même et trouvai Edward sur le perron. Au premier coup d'œil, je compris que j'avais affaire à son ancienne personnalité, celle-là même que je n'avais plus revue depuis son violent délire, lors du terrible voyage de retour de Chesuncook. Son visage agité de tressaillements nerveux affichait un étonnant mélange d'émotions où le triomphe le disputait à la peur. Il jeta un regard nerveux par-dessus son épaule quand je refermai la porte derrière lui. Il me suivit gauchement dans mon bureau et réclama un verre de whisky pour se calmer les nerfs. Je m'abstins de le questionner, préférant le laisser prendre la parole, et c'est d'une voix étranglée qu'il finit par s'ouvrir à moi.
« Azénat est parti, Dan. J'ai profité de l'absence des domestiques pour avoir avec elle une longue discussion la nuit dernière, et je lui ai fait promettre de ne plus s'en prendre à moi. Bien sûr, par précaution, je m'étais entouré de certaines défenses occultes dont je ne t'ai jamais parlé. Elle a dû céder, mais est entrée dans une colère noire. Après avoir réuni quelques affaires pour New York, elle a quitté la maison sur le champ pour sauter dans le train de 20h20 au départ de Boston. Les gens ne manqueront pas de jaser, mais qui puis-je? Je te prierai de ne rien divulguer de tout cela. Tu n'auras qu'à dire qu'elle est partie effectuer un long voyage d'études. Elle va probablement s'installer chez l'un de ces affreux groupes d'adorateurs. J'espère seulement qu'elle ira se faire pendre ailleurs et que j'obtiendrai le divorce. De toute façon, je lui ai fait promettre de rester à l'écart et de me laisser tranquille. C'était affreux, Dan. Elle me volait mon corps. Elle voulait m'en déposséder, faire de moi son prisonnier. J'ai faim de me soumettre et de la laisser faire, mais en réalité, je restais sur mes gardes. Sans rien laisser paraître, je planifiais ma mutinerie, car elle ne pouvait pas véritablement lire mes pensées, ou du moins pas en détail. Elle percevait uniquement en moi un vague sentiment de révolte, et à ses yeux, j'étais impuissant. Jamais elle ne m'aurait cru capable de la vaincre, mais c'était sans compter sur un ou deux sortilèges que j'avais gardés par-devers moi. Derby jeta un regard par-dessus son épaule et se servit une nouvelle rasade de whisky. J'ai congédié ces maudits domestiques à leur retour ce matin même. Ils étaient furieux et m'ont accablé de questions, mais ils ont fini par s'en aller. Ils sont de son espèce, de la race d'Innsmouth, et ont toujours été de mèche avec elle, lui obéissant au doigt et à l'œil. J'espère qu'ils me laisseront en paix, car ils ont ri d'une façon atroce en quittant la maison. Il me faut désormais contacter tous les anciens serviteurs de mon père. Je veux retrouver mon foyer. Et tu dois me prendre pour un fou, Dan, hein? Mais l'histoire d'Arkham est pleine d'enseignements qui confirmeront ce que je t'ai appris et ce que je m'apprête à te dire. Tu as été également témoin de l'une de ces transformations, souviens-toi, dans ta voiture, alors que je parlais justement d'Azenath à notre retour du Maine. À ce moment-là, elle s'est emparée de moi et m'a chassé hors de mon propre corps. Mon tout dernier souvenir de ce voyage, c'est que j'étais sur le point de te révéler au comble de l'excitation la véritable nature de cette diablesse. Alors, elle m'a de nouveau happé, et en un éclair, je me suis retrouvé à Croninshield, dans la bibliothèque où ces satanés domestiques m'avaient enfermé, et dans le corps de cette maudite harpie, ce corps qui n'est même pas humain. Tu sais, c'est avec elle que tu es rentré à Arkham, avec ce prédateur qui avait pris mes traits. Tu as forcément remarqué la différence. Je frémis pendant le court silence qui s'ensuivit. Bien sûr que j'avais remarqué la différence, mais comment pouvais-je accepter une explication aussi démentielle? Cependant, mon visiteur tourmenté poursuivait de plus belle. Il fallait que je m'en sorte, il le fallait, Dan. Elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. Il célèbre un sabbat dans le nord au-delà de Chesuncook, et le sacrifice aurait à jamais scellé l'échange. Elle m'aurait définitivement remplacé. Elle serait devenue moi et je serais devenu elle, pour toujours. Trop tard, mon corps lui aurait appartenu définitivement. Elle serait devenue homme et pleinement humaine comme elle le désirait tant. Je présume qu'elle se serait alors débarrassée de moi, en tuant son ancien corps et son nouvel occupant. Que le diable l'emporte, exactement comme elle l'a déjà fait par le passé. Elle, je devrais plutôt dire il ou bien ça. Édouard approcha son visage désormais atrocement convulsé, un peu trop près du mien à mon goût, tandis que sa voix se réduisait à un léger murmure. « Il faut que tu saches ce que j'ai voulu t'apprendre dans la voiture. Elle n'est pas Azenath, pas du tout. C'est en réalité le vieil Éphraïm qui habite son corps. Je m'en doutais déjà il y a un an et demi, mais aujourd'hui j'en suis sûr. Sa façon d'écrire le prouve quand elle n'y prend pas garde. » Sur certaines de ses notes griffonnées à la hâte, son écriture reproduit exactement celle de son père jusqu'à la dernière virgule. Et parfois, elle dit des choses que seul un vieillard comme Éphraïm pourrait dire. Il a échangé d'enveloppe avec sa fille quand il a senti venir la mort. Elle était la seule créature à sa disposition, dotée des capacités mentales et de la faiblesse d'âme adéquate. Il s'est emparé d'elle comme elle voulait s'emparer de moi, puis il a empoisonné l'ancienne défroque charnelle où il avait relégué sa victime. N'as-tu pas vu des dizaines de fois l'âme du vieil Éphraïm couvée dans le regard de braise de cette diablesse et dans le mien quand elle prenait le contrôle de mon corps ?
Édouard était à bout de souffle et dut reprendre sa respiration avant de poursuivre. Je gardais le silence. Quand il reprit la parole, sa voix avait retrouvé en partie son timbre habituel. De toute évidence, il était bon pour l'asile, mais ce n'était sûrement pas moi qui allais l'y envoyer. Le temps panserait peut-être ses blessures, maintenant qu'il était débarrassé d'Azenath. J'avais l'intuition qu'il n'irait plus jamais se perdre dans les méandres d'un occultisme morbide.
Je t'en dirai davantage une autre fois. J'ai besoin de repos à présent.
Je te parlerai des horreurs interdites dans lesquelles elle m'a entraîné. Des abominations d'un autre âge qui en ce moment même croupissent à l'écart du monde, maintenues en vie par une cohorte d'effroyables prêtres. Certaines personnes savent sur l'univers des secrets que nul ne devrait savoir et détiennent des pouvoirs que nul ne devrait détenir. J'étais plongé dans ces ténèbres jusqu'au cou, mais
c'en est fini. Qu'on m'offre un poste de bibliothèque à l'université miskatonique et je brûlerai sur l'heure cet ignoble Necronomicon et tous les autres ouvrages de son espèce. Elle ne peut plus rien contre moi désormais. Je dois quitter cette épouvantable maison au plus vite et revenir m'installer chez moi. Je sais que je pourrai compter sur ton aide si jamais ces maudits domestiques devaient revenir, ou si les gens posaient trop de questions au sujet d'Azénath. Je n'ai pas d'adresse à leur donner, tu comprends, sans oublier que certains groupes de chercheurs, certains cultes, disons, risquent de mal interpréter notre rupture. Quelques-uns de leurs membres ont de bien curieuses idées et méthodes. Tu m'épauleras s'il devait m'arriver quelque chose, j'en suis sûr, quand bien même tu seras choqué par ce que je vais t'apprendre. Je persuadai Edward de passer la nuit chez moi et l'installai dans l'une des chambres d'amis. Le lendemain matin, il semblait plus calme. Nous discutâmes des dispositions à prendre pour son retour dans la demeure familiale et je le priai d'agir sans tarder. Il ne me rendit pas visite ce soir-là, mais je le vis fréquemment au cours des semaines suivantes. Nous évitions le plus possible d'aborder les sujets étranges et déplaisants, préférant discuter des rénovations à apporter à la vieille maison des Derby ou des voyages qu'Edward avait promis de faire l'été prochain en ma compagnie et celle de mon fils. Je m'abstenais de lui parler d'Azénath, car je sentais à quel point ce sujet le perturbait. Comme il fallait s'y attendre, les commérages suscités par cette séparation allèrent bon train. Mais il n'y avait là rien d'inédit. Depuis des années déjà, l'étrange couple de la maison Crowninshield était au cœur de tous les ragots. Lors d'une soirée au Miskatonic Club, je fus toutefois contrarié lorsque le banquier des Derby, qui était ce soir-là d'humeur particulièrement volubile, laissa échapper qu'Edward envoyait régulièrement des chèques à un certain Moses Sargent, à son épouse Abigail, ainsi qu'à une Eunice Babson, tous trois résidents à Innsmouth. J'en déduisis aussitôt que ses serviteurs au visage malveillant extorquaient de l'argent à leur ancien maître. Ce dernier ne m'en avait pourtant jamais parlé. J'avais hâte qu'arrive l'été et que mon fils revienne de Harvard pour les vacances, car il me tardait d'emmener Edward en Europe. L'état de mon ami ne s'améliorait pas aussi vite que je l'avais escompté. Une certaine note d'hystérie perçait derrière ses rares moments de gaieté, tandis que ses crises de panique et ses dépressions étaient de plus en plus fréquents. La demeure des Derby fut prête en décembre, mais Edward ne cessait de repousser la date de son déménagement. Malgré la haine et la peur que lui inspirait la maison Crowninshield, on eût dit qu'il en restait curieusement esclave. Il semblait incapable de vider la moindre pièce et inventait toutes sortes d'excuses pour remettre au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même. Quand je le lui fis remarquer, il fut saisi d'une inexplicable frayeur. Le vieux majordome de son père, qui avait repris son service avec d'autres anciens domestiques de la famille Derby, me confia un jour qu'Edward errait souvent de pièce en pièce et s'attardait de façon malsaine dans la cave. Je soupçonnais Azénath d'avoir écrit des lettres de menace, mais le majordome me certifia que son maître n'avait reçu d'elle aucun courrier. Sixième partie. Alors qu'il me rendait visite un soir aux environs de Noël, Edward fut pris d'une violente crise de nerfs. J'avais orienté la conversation sur les voyages que nous comptions faire l'été suivant quand, soudain, il poussa un hurlement strident et bondit de son siège, le visage déformé par une incontrôlable et suprême terreur, une déferlante d'épouvante cosmique et de répugnance que seuls les noirs abîmes du cauchemar pourraient inspirer à un esprit sain.
Mon cerveau! Mon cerveau! Mon Dieu, Dan, elle m'attire vers elle! De là-bas! Elle me frappe, me griffe, cette diablesse, à l'instant même. Éphraïm, Kamog, Kamog, la fosse au Chogoth, Ya, Choubnigorat, le bouc aux mille chevreaux, la flamme, par-delà la chair, par-delà la vie sous terre, ô Seigneur!
Sa crise d'hystérie laissa bientôt place à une morne apathie, et je le poussai doucement vers son fauteuil pour le ranimer à grand renfort d'alcool. Il ne résista pas, mais ses lèvres continuèrent à bouger comme s'il se parlait à lui-même. Je compris soudain qu'il essayait de me dire quelque chose, et je me penchai pour saisir ses imperceptibles paroles.
« Encore elle, elle n'a pas abandonné. J'aurais dû m'en douter. Rien ne saurait arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça va, ça vient, surtout la nuit. Je ne peux lui échapper, c'est atroce. Oh mon Dieu, Dan, si seulement tu savais combien je souffre !»
Quand il eut enfin sombré dans l'hébétude, je disposai quelques oreillers derrière sa nuque et son dos et laissai le sommeil l'emporter. Je n'appelai pas de médecin car je savais quel serait son diagnostic sur sa santé mentale et je souhaitais si possible laisser Derby se rétablir de lui-même. Il s'éveilla vers minuit et je l'installai dans une chambre à l'étage. Le matin, il avait disparu. Il s'était faufilé silencieusement hors de la maison pendant la nuit. Je téléphonai à son domicile et le majordome confirma la présence de son maître qui arpentait fébrilement la bibliothèque. Dès lors, l'effondrement nerveux d'Edward ne fit qu'empirer. Il ne sortait plus de chez lui, mais j'allais quotidiennement lui rendre visite. Je le trouvais invariablement assis dans sa bibliothèque, les yeux dans le vague et l'oreille bizarrement aux aguets, comme pour mieux écouter l'invisible. Il reprenait parfois ses esprits et se montrait capable de soutenir une conversation, tant qu'elle n'abordait que des sujets banals. La moindre allusion à sa santé, à des projets d'avenir ou à Zénath déclenchait une nouvelle bouffée délirante. Son majordome me confia qu'il était en proie la nuit à de redoutables crises, au cours desquelles il pourrait bien finir par se blesser. Je m'entretins longuement avec son médecin, son banquier et son notaire, et finalement je ramenai le praticien et deux de ses collègues aliénistes à son chevet. Dès leur première question, Edward fut pris de spasmes si violents et pitoyables qu'un fourgon vint le chercher le soir même pour emporter son pauvre corps convulsé à l'asile d'Arkham. On me nomma son curateur et je lui rendis visite deux fois par semaine. Au bord des larmes, j'écoutais ses hurlements déchaînés, ses terribles murmures et ses épouvantables litanies. « Il le fallait, il le fallait, il mourra !» Il mourra en bas, tout en bas dans les ténèbres. Mère, mère, Dan, à l'aide, à l'aide !» S'il existait un espoir de guérison, nul n'aurait pu le dire, mais je m'efforçais de rester optimiste. Il faudrait un foyer à Edward si jamais il reprenait le dessus, et je priais ses domestiques de réintégrer la maison des Derby, qui aurait certainement sa préférence s'il était en état de choisir. Ne sachant que faire de la demeure de Crowninshield, avec ses aménagements complexes et ses collections d'objets insensés, je décidai de la laisser en l'état pour l'instant. Je demandai simplement à la femme de chambre des Derby de s'y rendre une fois par semaine afin d'épousseter les pièces principales et aux domestiques chargés du chauffage d'y faire du feu ce jour-là. Le cauchemar final survint peu avant la Chandeleur et fut précédé dans un cruel tour du destin par une trompeuse lueur d'espoir. Un matin de janvier, un coup de fil de l'asile m'informa qu'Edward avait subitement recouvré la raison. Il avait subi, me prévint-on, de graves altérations de la mémoire, mais sa santé mentale était indéniable. Les médecins souhaitaient évidemment le garder quelque temps en observation, mais le diagnostic ne laissait pas place au doute. Dans le meilleur des cas, il pourrait sortir au bout d'une semaine. Ivre de joie, je me précipitai immédiatement à l'asile, mais restait pétrifié quand une infirmière m'introduisit dans la chambre d'Edward. J'avais vu d'emblée que le patient qui se levait pour me saluer, les lèvres étirées en un sourire poli, était habité par cette étonnante énergie si contraire à sa nature profonde. Cette personnalité compétente qui m'emplissait d'horreur diffuse et dont Edward lui-même avait un jour juré qu'elle était l'âme parasite de son épouse. Je connaissais ce regard flamboyant et cette moue volontaire. C'était ceux d'Azénath et du vieil Éphraïm, et quand il prit la parole, je décelais dans sa voix la même ironie macabre et voilée, le même courant de malignité souterraine que j'avais entendu 5 mois plus tôt dans ma voiture. La personne qui se tenait devant moi était celle qui avait oublié de sonner 5 coups, celle qui avait suscité en moi d'impénétrables peurs, et qui aujourd'hui encore m'inspirait cette même impression d'étrangeté blasphématoire et d'ineffable répugnance cosmique. Il m'informa avec affabilité des dispositions à prendre pour sa sortie, et je ne pus qu'acquiescer, en dépit de sa totale amnésie des événements récents. Je sentais pourtant qu'il y avait là quelque anomalie terrifiante, quelque inexplicable aberration.
Cette créature abritait en son sein des atrocités que je ne pouvais concevoir. L'homme qui parlait jouissait peut-être de toutes ses facultés mentales, mais s'agissait-il vraiment de l'Edward Derby que j'avais connu? Si ce n'était pas le cas, alors qui ou de quoi s'agissait-il? Et où était passé mon ami? Fallait-il libérer cette chose, la garder captive, ou bien la rayer de la surface de la terre? Chaque parole de ce monstre ouvrait dans mon âme des gouffres de malice, et son regard prêtait à ses paroles une révoltante et suprême ironie lorsqu'il me dit que la liberté était d'autant plus appréciable que le confinement était étouffant. Je bafouillais une réponse maladroite et battis en retraite, mon soulagement grandissant à mesure que je m'éloignais de cet être. Je passai le restant de la journée et toute celle du lendemain à tenter de résoudre cette énigme. Que s'était-il passé? Quel genre d'esprit pouvait bien observer le monde par ces yeux qui apparaissaient au visage d'Edward, mais qui n'étaient pas les siens? Ce mystère opaque et terrible m'obsédait tant et si bien qu'il me fut impossible de travailler sereinement. Le matin du second jour, l'hôpital m'appela pour m'informer que l'état mental du patient était resté stable, et quand vint le soir, je me trouvais à mon tour au bord de la crise de nerfs. J'ose l'admettre, même si d'aucuns en déduiront que ma fragilité d'alors peut expliquer la vision qui m'assaillit par la suite. Je n'ai rien à dire sur ce point excepté ceci. Même ma démence supposée ne pourrait justifier l'abondance des preuves. Septième partie. Ce fut pendant la nuit, après cette seconde soirée, qu'une vague d'horreur glacée me submergea, imprimant à jamais dans mon âme le sceau noir de l'épouvante. Tout commença par un coup de téléphone peu avant minuit. J'étais le seul encore debout et c'est légèrement somnolent que je décrochais le combiné dans la bibliothèque. Il ne semblait y avoir personne à l'autre bout du fil et j'étais sur le point de raccrocher pour me mettre au lit quand je crus percevoir un son lointain dans le récepteur. Était-ce quelqu'un qui éprouvait de grandes difficultés à parler? En tendant l'oreille, je crus entendre une sorte de gargouillis semi-liquide, dont le rythme suggérait pourtant la construction syllabique d'un mot ou d'une formule inintelligible. Je demandai « Et qui est à l'appareil ?» Mais pour toute réponse, j'obtins uniquement d'autres J'estimais que ce bruit était dû à quelques défaillances mécaniques. Au cas où mon correspondant, à défaut de pouvoir émettre, pouvait recevoir, j'ajoutais « Je ne vous entends pas bien. Vous feriez mieux de raccrocher et d'appeler les renseignements. » J'entendis immédiatement un cliquetis à l'autre bout de la ligne, puis le silence. Cet incident, je l'ai dit, eut lieu peu avant minuit. La police établit plus tard que l'appel provenait de la maison Crown & Shield, alors qu'il s'était écoulé 2 ou 3 jours depuis que la femme de chambre s'y était rendue pour la dernière fois. Je me contenterai d'énumérer brièvement ce que l'on découvrit dans cette vieille bâtisse. Une remise en grand désordre, tout au fond de la cave, des traces de pas, de la saleté, une armoire vidée en toute hâte, des marques stupéfiantes sur le combiné du téléphone, des papiers épars dans l'écritoire, ainsi qu'une détestable puanteur qui imprégnait chaque pièce. Les policiers, ces imbéciles, s'accrochent fièrement à leur petite théorie et sont toujours à la recherche des 3 sinistres domestiques congédiés, introuvables depuis le début de ce scandale. Les inspecteurs les soupçonnent de quelque macabre vengeance, dont j'aurais été la cible en ma qualité de meilleur ami et de conseiller d'Edward. Les idiots! Croient-ils vraiment que ces rustres dégénérés auraient pu contrefaire cette écriture? Qu'ils auraient pu orchestrer ce qui advint par la suite? Ont-ils seulement constaté les transformations dont le corps d'Edward, son ancien corps, devais-je dire, a été l'objet? Pour ma part, je crois désormais tout ce que m'a raconté mon pauvre ami. Par-delà les confins de la vie grouille des horreurs, dont nous ne soupçonnons pas l'existence, et la curiosité malsaine d'un seul homme suffit à leur frayer un passage dans notre monde. Éphraïm, Azénath, ce démon les a invoqués, et voilà qu'elles vont m'engloutir comme elles ont englouti ce pauvre Edward. Comment savoir si je suis à l'abri? Ces puissances survivent à la mort de l'enveloppe charnelle. Le lendemain, quand dans l'après-midi j'émergeais de ma prostration et fus capable de marcher et de parler de façon cohérente, j'allais à l'asile et tuais ce monstre, pour le bien d'Edward et du monde. Mais tant qu'ils n'auront pas incinéré son cadavre, comment puis-je être sûr qu'il n'est plus ? Ils conservent son corps pour le soumettre à différentes autopsies. Mais j'insiste pour qu'on le réduise en cendres. Il faut l'incinérer, lui qui n'était pas Edward Derby quand je l'ai abattu. Sans quoi je sombrerai dans la folie, car je serai certainement sa prochaine victime. Heureusement, j'ai une volonté de fer, et je ne permettrai pas à ces ombres qui la siègent de s'emparer d'elle. Une seule vie, Ephraim, Azenath et Edward, qui sera le suivant ? Je refuse que l'on me chasse de mon corps. Mon âme ne sera pas prisonnière de cette liche lestée de balles dans la morgue de l'asile. Mais je m'égare. Je vais maintenant essayer de décrire cette abomination sans nom qui fit basculer mon existence. Je ne m'attarderai pas sur les faits que la police a obstinément refusé de prendre en compte. Le témoignage de ces trois promeneurs qui, dans High Street, peu avant 2 heures, croisèrent la route de cette créature voûtée, grotesque et malodorante, ou encore ces étranges traces de pas, les sols de la maison relevés dans plusieurs pièces. Je dirai seulement qu'à 2 heures, je fus tiré du sommeil par le heurtoir et la sonnette de la porte d'entrée, que l'on actionnait l'un après l'autre dans un accès de désespoir maladroit, en s'efforçant de reproduire les 5 coups du vieux code d'Edward. Je m'éveillai aussitôt, l'esprit en ébullition. Derby était à la porte, et il se rappelait notre code. Sa nouvelle personnalité ne s'en était pas souvenue, elle. Cela signifiait-il qu'il était de nouveau lui-même ? Et que faisait-il ici ? Pourquoi cette précipitation affolée ? L'avait-on libéré avant l'heure, ou bien s'était-il échappé ? Le retour de son ancienne personnalité, pensais-je en revêtant à la hâte ma robe de chambre et en dévalant les escaliers, avait peut-être occasionné chez lui une violente crise de nerfs et persuadé les médecins de repousser sa sortie, ce qui l'avait conduit à s'échapper. Lorsque j'ouvris la porte sur les ténèbres de mon allée bordée d'ormes, je reçus une bouffée de vent pestilentiel et manquai de m'évanouir. Suffoqué par la nausée, je ne vis pas immédiatement la silhouette gibbeuse et voûtée campée en haut des marches. C'était bien Edward qui m'avait appelé, mais quelle était donc cette infecte et chétive créature d'être humain ? Où était passé mon ami ? Il sonnait pourtant encore une seconde avant que j'ouvre la porte. Le visiteur portait l'un des pardessus d'Edward, mais dont les pans traînaient sur le sol, et les manches, pourtant retroussées, recouvraient les mains de cet étrange gnome. Il était coiffé d'un chapeau mou rabattu sur le front, tandis qu'une écharpe en soie noire dissimulait son visage. Je fis un pas chancelant dans sa direction, et l'être produisit un son semi-liquide, semblable à ceux que j'avais entendus au téléphone. Et me tendit une grande feuille de papier manuscrite piquée au bout d'un long crayon. Toujours incommodé par la morbide et inexplicable puanteur qu'il dégageait, je pris la lettre et la parcourus des yeux à la faible lumière du perron. À n'en pas douter, elle était bien de la main d'Edward. Mais pourquoi m'écrire quand il avait pu sonner une minute plus tôt ? Et pourquoi son écriture était-elle si tremblante, maladroite et grossière ? Incapable de rien déchiffrer dans cette pénombre, je reculai dans le vestibule. Le gnome me suivit machinalement d'un pas lourd, mais il se figea sur le seuil de la porte. La puanteur qu'exhalait ce surprenant émissaire était absolument infecte, et je priai pour que ma femme ne se réveillât pas, afin de lui épargner d'avoir à la respirer. Je fus exaucé, Dieu merci. Tandis que je lisais la lettre, je sentis mes genoux se dérober et tout devint noir. Quand je repris connaissance, je gisais sur le sol. Ma main crispée par l'effroi serrait toujours cette maudite missive. Voici ce qu'on pouvait y lire. Dan, va à l'asile et tue ce monstre. Détruis-le. Ce n'est plus Edward Derby qui habite ce corps, mais Azenath. Elle s'est emparée de moi alors qu'elle est morte depuis 3 mois et demi. Je t'ai menti en te racontant qu'elle m'avait quitté. Je l'ai tuée. Il le fallait. Tout s'est passé très vite. Nous étions seuls et j'étais dans mon propre corps. Je me suis emparé d'un chandelier et m'en suis servi pour lui fracasser le crâne. Si je l'avais laissé faire, elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. J'ai enseveli son corps dans un débarras tout au fond de la cave, sous un tas de vieilles caisses, puis j'ai fait disparaître toutes les traces. Les domestiques se doutaient bien de quelque chose le lendemain matin, mais ils dissimulent de tels secrets qu'ils n'ont pas osé alerter la police. Je les ai congédiés, mais Dieu sait de quoi ils sont capables, eux et les autres membres du culte. Pendant quelque temps, j'ai cru être délivré de cette malédiction. Puis j'ai senti ce tiraillement au cerveau. Je compris immédiatement ce que c'était. J'aurais d'ailleurs dû m'en douter. Une âme comme la sienne, ou celle d'Éphraïm, n'est pas entièrement dépendante de son enveloppe charnelle. Elle peut lui survivre tant que subsiste la dépouille. Elle s'emparait de moi, échangeait mon corps contre le sien, elle m'emprisonnait dans son cadavre qui pourrissait à la cave. Je savais ce qui m'attendait, c'est pourquoi je me suis effondré et qu'il a fallu me faire interner. Alors, c'est arrivé. Je me suis retrouvé à suffoquer dans les ténèbres, enfermé dans la dépouille putréfiée d'Azénath au bas de la cave, sous les caisses où je l'avais moi-même enterrée. Et je savais qu'elle occupait désormais mon corps à l'asile, et ce pour toujours. Car la Toussaint était passée et le sacrifice opérait même en son absence. Elle dispose aujourd'hui d'un corps en parfaite santé. C'est une terrible menace que les médecins s'apprêtent à relâcher dans le monde. Au comble du désespoir et en dépit de tout, je suis parvenu à me traîner hors de ma tombe. La décomposition de mon corps est trop avancée désormais pour que je puisse parler, comme tu as pu le constater quand je t'ai téléphoné. Mais je peux encore écrire. Je ferai ce qu'il faut pour venir t'apporter moi-même cette dernière lettre avant de t'avertir. Tu, ce démon qui met notre monde en péril, veille à ce qu'il soit incinéré. Sans cela, il continuera à vivre éternellement, passant sans cesse d'un corps à un autre, et je n'ose imaginer quel cataclysme il déchaînera. Garde-toi de la magie noire. C'est l'œuvre du diable. Adieu, Dan. Tu fus pour moi le meilleur des amis. Raconte à la police ce qu'elle voudra bien croire, et pardonne-moi de t'avoir entraîné dans cette histoire. Je serai bientôt en paix, car ce corps n'en a plus pour très longtemps. J'espère simplement que tu pourras lire ces lignes. Et n'oublie pas, tue cette chose, tue-la. Ton ami, Ed. Je n'achevais la lecture de cette lettre que plus tard, car j'avais tourné de l'œil à la fin du troisième paragraphe. Je défaillis à nouveau quand je vis et sentis la masse informe qui gisait sur le seuil de ma porte, terrassée par la chaleur de la maison. Mon majordome, plus endurci que moi, garda son sang-froid à la vue de ce monstre quand il prit son service le lendemain matin. C'est lui qui prévint la police. Quand elle arriva sur les lieux, on m'avait monté dans ma chambre. Mais cette charogne était encore là où elle s'était effondrée la nuit dernière. Les agents durent se couvrir le nez de leur mouchoir pour l'examiner. Sous les multiples couches de vêtements dont elle était affublée, ils découvrirent avec horreur un agglomérat de chair liquéfiée. Il y avait également des ossements, ainsi qu'un crâne fracturé. Le fichier des empreintes dentaires permit l'identification du crâne. C'était bien celui d'Azénath Waite.